I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Yannick Daron et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de Kiss Kiss Bang Bang. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis. Je suis avec mon ami Yannick Dahan.
Salut.
Qui rigole parce qu'il me voit présenter, ça le fait beaucoup rire.
Ça me fait toujours beaucoup.
Voilà. Parce que je ne suis effectivement pas un présentateur, Yannick Dahan. Tu vois, je n'ai pas ton talent pour passer à l'écran.
J'ai aucun talent, c'était juste l'habitude.
Oui, bah voilà, c'est ouais. Ça. Et donc moi j'ai pas l'habitude, j'ai toujours pas pris l'habitude, alors que ça fait quand même 3 ans qu'on fait
ouais,
des émissions.
C'est ça.
Mais
ça
régulièrement, oui, un jour peut-être, si j'en ai envie, quoi. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Yannick? Bon, normalement, les gens qui ont cliqué sur le podcast, ils le savent. Hein.
Non, ouais, mais on se demandait pourquoi on avait choisi ce film-là. C'est toi, en fait, qui l'avais choisi. Moi, j'étais curieux parce que je l'avais pas revu depuis sa sortie. Et c'était Quatre Frères.
Attends, ouais, c'est ça.
Voilà.
C'était Quatre Frères de John Singleton. Mais alors, attends, tu te dis pourquoi j'ai choisi ça. Regarde, il y a Alain Mercier qui est technique, toi, qui est à côté de nous. Tu vois, il a un micro. Alain, redis-moi combien d'épisodes on a fait de Stéroïdes?
Oula, on est pas loin de la centaine.
Voilà. Ouais, donc à un moment donné, on peut pas tout faire. On est obligé de.
J'ai déjà proposé plein de trucs que tu ne veux pas faire. Ça,
comme quoi.
C'est la différence. Bah, comme plein de gros bras du début des années 80, où il y en a plein à raconter.
T'as des trucs à dire
dans la série Z. Après, effectivement, j'étais dubitatif sur Quatre Frères parce que dans mon souvenir, j'avais vu qu'une fois et aussi sympathique était-il, j'avais pas souvenir que c'était vraiment un film de gros bras et tout ça. Et je l'ai revu et tu avais raison en fait.
C'est un film d'action
qui justifie qu'on puisse en parler dans ce
cas-là. Quatre Frères, John Singleton, 2005.
Ouais.
Pitch-moi le film.
Oh putain,
C'est facile. Oh, alors,
celui-là, il est hyper facile, puisque c'est l'histoire de quatre frères, mais faux frères, en
adoptifs.
Fait. Adoptés, qui sont des enfants de la rue et qui ont été élevés par une vieille dame qui apparemment s'occupait de beaucoup d'enfants de la rue. Donc, dans le quartier où elle vivait à Détroit, tout le monde la respectait parce qu'elle remettait dans le droit chemin plein de jeunes enfants et que même si les quatre, donc incarnés par Tyrese, Mark Wahlberg,
André Benjamin
et un quatrième dont j'ai oublié le nom,
Gareth Edlund,
étaient considérés comme les pires, mais qu'ils auraient été encore pires si elles ne s'en étaient pas un petit peu occupées. Et puis au début du film, on apprend que cette vieille dame se fait tuer dans une agression dans un supermarché. Les quatre frères viennent pour l'enterrement. Évidemment, comme c'est des shows, ils ont tout de suite envie de trouver qui sont les salopards qui ont pu buter leur mère, et vont évidemment se rendre compte qu'il y a un complot derrière tout ça, et que c'était pas simplement un petit braquage, et qu'il y avait des ordures de mafieux derrière, et ils vont remonter toute la piste pour aller tous les buter à la fin.
Voilà.
Donc basique.
Voilà, très basique,
simple,
mais
basique,
simple, mais plutôt sympathique.
Bah,
défilé en écriture plutôt pas mal, quoi. Enfin, moi, je trouve simple, encore une fois.
Ouais, voilà, simple. Je sais pas si on va pouvoir réellement s'éterniser dessus, parce que c'est un film où j'avais ce souvenir, je l'avais vu qu'une fois, et j'avais ce souvenir de trouver un petit film sympathique à l'époque, mais sur lequel je projetais sans doute, dû au fait que Singleton avait, il voulait y mettre une petite vibe 70s, une petite vibe Blaxploitation, avec un super soundtrack Motown dessus, les quartiers industriels de Détroit. Donc dans ma tête, il y avait aussi,
même si c'est principalement tourné à Toronto,
ouais, exactement, mais donc j'avais plutôt, moi, dans ma tête, cette espèce de souvenir de pas, c'est marrant, hein, j'avais pas souvenir de film d'action, j'avais souvenir d'un film qui avait une volonté d'être, alors je mets vraiment des gros guillemets parce que je me trompais complètement, d'être un petit peu réaliste dans ces quartiers un peu pauvres de Détroit. Puis Je revois le film aujourd'hui, je me dis, ah ouais, non, mais pas du tout. Donc ça, c'est du décorum. Il y a de la musique qui te donne un petit style Blaxploitation et quelques caisses qui ont l'air d'être sorties de chez Shaft. Mais à côté de ça, c'est un film du samedi soir. C'est vraiment ça, quoi, pour moi. C'est un petit film du samedi soir, un petit actionneur rigolo qui prend le prétexte d'un contexte un peu social crédible pour très rapidement partir dans le too much, l'exagération et la déconne. Parce que
la punchline,
tout,
hein.
La punchline et tout le... En fait, mais c'est marrant, la dernière fois, on parlait, je disais en rigolant que ça me manquait, c'était sur American Ninja, ça me manquait ces films du début des années 80 où en fait, on savait ce qu'on cherchait à faire, on savait quel était le concept, on savait ce qu'on voulait donner aux spectateurs, et quand le but c'était soit de donner de l'action, soit de donner du fun, on s'embarrassait pas forcément de films à rallonge où tout devait être surjustifié, surexpliqué en psychologie
de pathos.
Des personnages, soit de pathos, soit les articulations du récit qui mettent des plombes à se justifier, où avant c'était allez, en deux mots au détour d'une phrase, t'avais compris l'idée, et puis on te donnait ce que t'avais envie de voir derrière. Et c'est vrai que quand tu revois le film, aujourd'hui, déjà Mark Wahlberg, vraiment, il est, moi, me fait rire parce qu'il est vraiment dans ce type de rôle de mec tout vénère, tout grande gueule et qui a l'air en même temps complètement naïf et teubé. Et il le fait super bien. Toutes ces scènes, on lui dit, faut pas faire. Mais j'y vais, on va leur péter la gueule et j'en ai rien à foutre. Et en fait, tout le film est construit autour de quelques grandes scènes. Au concept rigolo, le coup de bah, je vais interrompre un match de basket avec des malabars et j'y suis tout seul avec mon gun et tout le monde hallucine de le voir faire ça. Bon, ça c'est rigolo. Ça t'amène vers une scène de poursuite en caisse sous la neige. Donc en fait, et évidemment toutes les scènes over too much avec alors attention, hein, je vais mal le prononcer, Chiwetel Ejiofor là, qui joue le bad guy et qui en fait des caisses avec tous les mecs autour de lui qui en font des caisses, et évidemment toutes les scènes de pure comédie, quoi, avec les copines
Sofia Vergara qui voilà.
Mais juste des pauvres faire valoir les meufs, sont vraiment soit elles sont soumises, soit elles sont hystériques, la maman, quoi. C'est un film de bovin, et c'était un film de bovin. Alors quand je le revois, évidemment, on n'est pas à la même époque, hein, donc moi je ne vais pas le juger par rapport au prisme d'aujourd'hui, mais c'est un film de bovin, et c'est un film de bovin qui s'assumait comme tel.
Et encore, déjà, je trouve, en fait, si tu veux, il y a deux, trois trucs, on va en parler, il y a deux, trois trucs, en fait, c'est-à-dire que oui, c'est un film 70s, c'est un film relativement sympathique pour moi aussi.
Oui, c'est sympathique.
Je dirais très sincèrement, pour resituer ça dans la carrière de John Singleton, à mon sens, c'est son meilleur film. Quand on en parlait avec Alain juste avant qu'on enregistre, il me disait, mais tu t'aimes pas Boys in Hood? Je fais, bah, en fait, non, pas trop.
Non, moi non.
C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé que c'était un film moralisateur sur son sujet, quoi.
Et en fait. D'ailleurs, c'est un des rares films, Quatre Frères, où vraiment, il n'y a pas de politisation, contrairement à d'autres.
Non, il n'y a pas de politisation, il y a juste
pas
un peu de
Fast and Too Furious.
Non, mais voilà. Non, bon, ça, c'est le film le plus con de sa carrière, je pense. Non, quoique.
Baby truc, là, Baby Boy, c'était pas mieux.
Mais encore mieux, hein.
Shaft, c'était pourri.
Il a quand même fait Identité Secrète.
Ah putain, ouais.
Qui est quand même le truc avec Taylor Lautner, là.
Avec le mec de Twilight, là.
Ouais, il a 17 ans et en fait, il essaie de le transformer en Tom Cruise, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est son dernier long métrage du cinéma, parce qu'il faut aussi spécifier que John Singleton est mort en 2019.
Ouais, ouais, ouais.
C'est crise cardiaque, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que, en fait, de toute la carrière de Singleton, si je devais en faire un,
bah,
vraiment, ça serait quatre frères, parce que c'est vraiment le film le plus sympa. C'est effectivement John Singleton, que ce soit dans ses grand film, c'est-à-dire les films pour lesquels, parce que mine de rien, faut quand même signaler que c'était un énorme espoir du cinéma hollywoodien, hein, quand Boys in the Hood est sorti.
Il est jamais sorti.
Un des cinéastes les plus jeunes à être nommé à l'Oscar.
Ouais, ouais.
Donc voilà, enfin, c'était, il avait, je crois, 22 ans quand c'est sorti, 23 ans.
Bah, donc, il était tombé au bon moment quand il fallait.
Mais le truc, c'est que, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que, mine de rien, on parle d'un gars qui, en fait, en 91 faisait ce film-là, Boys in the Hood, qui se plante derrière avec Poetic Justice, qui était un autre film qui se voulait un peu dans cette veine-là.
Il avait fait un truc dans un lycée, non, aussi?
Ouais,
encore
c'est,
un truc relou.
C'est Fièvre à Columbus University, encore un truc, encore des leçons de morale, quoi, avec Ice Cube et tout.
C'était horrible.
Et en fait, après, alors, il y a un film que j'ai pas vu, dans toute cette filmo, qui est un film qui est sorti directement en vidéo chez nous, qui s'appelle Rosewood, sur un lynchage en fait dans le sud des États-Unis et qui paraît-il, on m'a souvent dit que c'était très bien, donc il faut relativiser sur ça. On l'a pas vu, donc
moi la plupart des autres films je les ai vus,
mais c'est vrai que Too Fast Too Furious c'est juste une purge, tu vois.
Baby Boy c'est une catastrophe. Non, au final, Quatre Frères, en fait, si tu veux, je pense que celui-là nous paraît être le plus sympathique qu'il ait fait, d'ailleurs, parce que il a le mérite d'être propre en réel, à défaut d'être inventif. Et mais surtout,
c'est pas très grave le manque de finesse, on va dire, du film.
Oui, c'était, non, mais sujet, dire, et puis je pense que c'est un des films aussi où il me semble qu'il avait carrément assumé. Moi, j'ai ce souvenir-là que Singleton à l'époque disait. N'attendez pas de ce film-là ce que j'ai tenté de faire avant, c'est un film du samedi soir, et que même Mark Wahlberg, même Tyrese le disait, on est là, on fait un film fun, on fait un film rigolo, on fait un film d'action, et ça n'a pas plus de prétention que ça. Et au final, peut-être que cette dimension-là a fait qu'il a torché un truc qui est finalement sympathique, avec des personnages. La grande réussite du film, c'est l'alchimie des persos. Qu'on le veuille pas, c'est même pas les scènes d'action, c'est vraiment qu'ils fonctionnent super bien ensemble, les quatre, ils sont assez caricaturaux, chacun dans leur rôle, mais ils marchent plutôt bien, quoi.
Mais ce que j'allais dire, en fait, si tu veux, par rapport à ça, c'est que justement, en fait, en revoyant le film, alors je pense que je l'ai vu une fois à l'époque, hein, quand c'est sorti, j'avoue que j'y suis allé à reculons parce que c'était John Singleton, et finalement, c'est ce qui m'a fait apprécier le film, à mon sens, parce que j'entendais absolument rien, et que du coup, j'ai pu reprendre ce que j'avais à apprendre là-dedans, c'est-à-dire, ouais, c'est con, hein, mais tu vois, Mark Wahlberg qui débarque sur la glace à la fin, si tu veux, pour péter la gueule au mec, alors qu'il a disparu pendant 10 minutes de film, et que du coup, tu t'attends pas à ce qu'il revienne comme ça marche, tu vois. Moi, je suis très friand des moments où on démastique une baraque, si tu veux. Je veux dire, derrière moi, il y a l'affiche de l'épreuve de force, c'est quand même le film où on démastique une baraque de malade, tu vois, avec à coup de tir de M16, quoi. Donc là, y a une scène incroyable, c'est pas aussi bien que l'épreuve de force, hein.
Bien sûr.
Mais.
Ça fonctionne.
Voilà, ça fonctionne. La scène est plutôt cool. J'aurais aimé un super réel derrière ça, tu vois, pour faire tout fonctionner. Oui, mais en fait, je peux pas vraiment me plaindre.
Oui, et puis par rapport à ce qu'est le film, t'as pas besoin forcément. Tu vois, je veux dire, y avait pas besoin de révolutionner quoi que ce soit. Le truc tient sur un script qui est basique, avec une alchimie de perso qui fonctionne bien. T'as des petites scènes d'action qui sont marrantes. T'as des punchlines qui sont rigolotes. T'as des bad guys qui en font des caisses. Donc tu te marres en regardant le truc. Je pense que ça allait pas plus loin.
Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout qu'en fait, en gros, il y a une façon finalement d'appréhender le polar 70s, parce que c'est ce que ça se veut être, ça se voudrait être ça, qui est un petit peu en fait dans l'air du temps de cette époque là, c'est à dire en 2005. Ce que je voulais dire, toi tu dis que l'époque a changé, si tu veux, par rapport à en 2005 et aujourd'hui, mais même déjà en fait je pense qu'en 2005 on pouvait se dire ouais, bah l'époque elle a clairement changé depuis les 70s,
parce clairement.
Même si les mecs essayent si tu veux de retrouver cette vibe un peu tu vois vénère, etc., bah tu te rends compte que finalement, par exemple, quand il y a des exécutions froides ou ce genre de choses, c'est fait un peu hors champ, tu vois. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Et du coup, en fait, c'est là où tu te dis, bon, bah, peut-être que tu
vois. Non, mais ça avait changé cinématographiquement. Moi, je le disais pas cinématographiquement, je le disais plus politiquement. Genre, aujourd'hui, tu sors ce film à n'importe quel des critiques, ils vont te sortir le rôle de la femme et tout ça à l'intérieur. Et effectivement, c'est pour ça que je disais, c'est un film de bovin, ça. On fait plus de films de bovin. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas plus avoir quatre mecs de la rue, alors que dans la rue, aujourd'hui, tu vas avoir des mecs qui se comportent exactement de la même manière.
Ouais,
on va plus, puisqu'on idéalise, puisqu'on crée des personnages creux qui sont des personnages porteurs de valeurs politiques. Le mec de la rue qui se comporte comme un bourrin, qui va traiter mal sa meuf, qui va faire le kéké, montrer la testostérone, ça n'existe plus. C'est là où je dis, ça a complètement...
Mark Wahlberg qui arrête pas de faire des blagues sur la Latina, là, sur Sofia Vergara.
Évidemment.
Qui l'appelle la vida loca et je sais pas quoi. Enfin, tu vois, toutes les blagues de merde. On est limite l'arme fatale 3. Là,
oui,
tu vois, mais
ça marchait plutôt pas mal.
C'est-à-dire que c'est ça.
Le chantage était marrant, quoi, dans le film.
Voilà, mais le truc, c'est que voilà, effectivement, il y a cette vibe, il y a l'idée. Alors, le truc avec Singleton aussi, c'est que voilà, comme tu l'as dit, c'est pas un grand cinéaste.
Non.
Enfin, faut être honnête, hein, je veux dire, enfin, en tout cas, personne ici.
Mais
encore une fois,
on a été
bluffé par ses débuts. Mais le truc, en fait, que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a un avantage, c'est qu'il y a quand même une très belle lumière.
Oui.
Je trouve en fait qu'il y a une lumière de Peter Menzies, quoi. Peter Menzies, c'est le chef-op de Die Hard 3, par exemple, du 13e guerrier. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, hein, je veux dire. Et du coup, en fait, il y a ce truc, ce qui était surprenant, parce que quand tu regardes par exemple Shaft, tu vois le enfin c'est pas un remake, c'était une suite en fait qu'il a fait en fait dans les années 2000. Mmh. Ouais, c'était quand même moins travaillé.
Non, c'était
là t'avais enfin pareil avec Too Fast and Furious, on va même pas en parler parce que c'est clairement enfin c'est la misère quoi.
Non mais au-delà de ça, mais au-delà même de la lumière, je trouve que sans être transcendantal et sans faire preuve d'une inventivité de ouf, cette volonté dans certains cadrages qui joue aussi bien sur la façon dont tu appréhendes ton décor et ton set quoi, c'est plutôt correct, tu vois. Je veux dire, l'intention elle n'est pas que conceptuelle, elle n'est pas, ça aurait pu être un film torché comme un téléfilm avec un super soundtrack Motown en te disant regarde on est 70s. Non, le film débute sur le cadrage typique de la bagnole purement 70s, sur la carrosserie, la façon dont on va gérer les personnages par rapport à un décor il y a des choses qui viennent de
l'idée d'avoir quatre personnages en fait, si tu veux, qui doivent interagir et dont l'interaction doit fonctionner justement et se sentir,
c'est pas évident,
ça t'oblige, voilà, c'est ça, ça t'oblige forcément avoir des plans larges, etc.
C'est ça.
Après, le truc, c'est que c'est là où il y a où en fait, si tu veux, on va dire les limites de cinéaste, on va dire de Singleton, c'est que il y a une scène en fait où moi émotionnellement je sors un petit peu, par exemple, de cette scène-là. C'est vraiment la scène où ils sont au repas au début de Thanksgiving, si tu veux,
ouais.
Et t'as la mère qui apparaît à chacun des personnages, sauf ouais. à Mark Wahlberg,
ouais.
et en fait qui leur parle alors qu'elle est morte en fait, ouais, qui vient de l'enterrer, et du coup tu te dis bon, cette scène qui est volontairement naïve, hein, volontairement émotionnelle et tout, en fait elle a quelque chose d'un petit peu ridicule, je trouve, en
elle
fait,
est, dans elle, le est, truc, elle parce est trop appuyée, c'est tout,
voilà, c'est ça,
parce que l'idée est pas mauvaise, hein.
Oui, l'idée elle est bonne, moi je pense que quelqu'un qui aurait un peu plus de
subtilité, l'idée est bonne, et moi je trouve que ça fonctionnait. C'est dommage qu'il y avait il y a trop de regards appuyés vers le siège, trop de trucs là-dessus, mais cette idée de la nana, moi la mère qui réapparaît, je la trouve surtout géniale dans le plan final. J'adore parce que au-delà de tout ce qu'est le film et on parle des époques, cette fin où ces mecs ont buté la moitié de la ville, se sont comportés comme des connards et tout ce que tu veux, il arrive et la meuf, la vieille qui réapparaît fantomatique pour lui dire ouais, finalement tu reviens à la maison, et ça termine sur Mark Wahlberg qui te fait un gros sourire, une grosse banane de genre ouais c'est cool. Moi j'adore cette entre guillemets cette espèce d'immoralité qui est pas une immoralité, qui est une façon de dire tout ce film-là, et c'est, tu vois, c'est une bulle de fun qui est décorrélée du reste. Et quelque part, quand je te dis ça, je me dis que, tu vois, Singleton, dans lequel, faut être honnête, ce mec-là a bâti sa filmographie sur, une institutionnalisation critique de son premier film, Boys in the Hood, comme ça arrive à travers l'histoire du cinéma. Il y a des cinéastes qui sont pas des très bons réalisateurs, qui tombent au bon moment, ils font la petite morale qu'il faut pour satisfaire les goyots.
Adoubés par Scorsese.
Vont tout d'un coup être survalorisés, alors qu'on sait très bien, et nous on en parle depuis longtemps, qu'à peu près à la même époque, les frères Hughes faisaient du vrai cinéma, et n'ont pas forcément eu autant de facilité derrière dans leur carrière à monter ce qu'ils voulaient monter. Et puis comme tout ça a été quand même initié par Spike Lee à la base, tu vois fondamentalement la différence entre Spike Lee, qui aura beau être aussi politisé que Singleton, est avant tout un putain de metteur en scène, et il l'a prouvé à moult reprises. Tout ça pour dire que j'aurais presque préféré que Quatre Frères soit le premier film de Singleton, parce que Quatre Frères aurait été le premier film de Singleton. Tu sentais quand même par rapport au précédent matière à rester humble et donc à travailler le matériau cinématographique, là où il a passé des années à travailler le discours plutôt que son métier de cinéaste.
Mais ça n'aurait pas pu être le premier film de John Singleton.
Mais ça n'aurait pas pu l'être.
Parce que je pense qu'il avait des choses à se prouver par rapport à ça. Et l'autre point, ce que je rajouterais, en fait, on va dire, c'est là où je te dis, je parle un petit peu de manquement, entre guillemets, c'est que sur le papier, effectivement, la scène de l'apparition de la mère, en fait, c'est une bonne idée parce que, elle est c'est la tante May, en fait, la tante May de Spider-Man, en fait, si tu veux, c'est le compas entre guillemets moral, ouais. On va dire,
c'est la justification à tout.
Oui, mais le compas moral, on va dire, si tu veux, de cet univers-là. Le truc, c'est que, effectivement, comme tu le pointes du doigt, le fait qu'elle réapparaisse à la fin, ce qui fonctionne, c'est que tu te retrouves avec des personnages qui fondamentalement n'ont pas énormément évolué.
Non.
Mais par contre, en fait, on te montre cette évolution sur le papier, parce que justement, le personnage de Mark Wahlberg est le seul à ne pas la voir en fait à table, parce qu'il accepte pas sa mort quelque part. Si tu veux, en fait, c'est celui qui va être le catalyseur de toute l'histoire. En fait, il finit par la voir et donc il accepte finalement en fait la mort de ce personnage-là. Et donc tu comprends qu'il a évolué vis-à-vis de la situation.
Mais c'est pas si con que ça en fait. Et c'est pas si con que ça.
Sur le papier, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que par contre. Bah en fait ça manque de finesse, ça manque de mais comme beaucoup de choses. Tu parlais du méchant.
Oui.
Enfin le méchant qui fait bouffer les gens par terre, si tu veux. et les mecs qui le suivent, tu vois.
Mais c'est drôle.
C'est surtout que la scène elle est ouf parce que donc t'as un mec en fait qui continue à bouffer pendant qu'il est en train de faire son discours. Donc il est pas content, il jette la bouffe par terre, il lui fait bouffer par terre.
Fait bouffer sa femme,
la femme du mec qui se révolte. Il lui dit toi aussi tu te mets à bouffer par terre. Et après à un moment donné il y a une scène de poker où il pousse un autre gars qui l'a comment dire trahi. Il lui dit bon bah toi tu vas à la table des gamins. Tu vois, enfin, donc t'as ce truc là, quoi. Et ensuite, il dit à un de ses hommes de main, il dit ouais, ta femme, là, je vais me la taper, en fait, il va falloir la partager. Tu dis, c'est quoi ce mec?
Non, mais il est improbable, c'est ça qui est drôle.
C'est complètement quoi, improbable. Complètement
improbable. Avec ses fringues, pas possible.
Et il fait rien de plus que ça, à part une baston à la fin.
Oui, d'ailleurs, pas terrible la baston finale.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est là, on spoil, hein. Ouais.
Ah oui,
c'est qu'il le fume comme une merde, en fait. Comment t'appelles ça? Il met le cadavre sous l'eau, quoi, tu vois, mais il se débarrasse comme des voyous, quoi.
C'est ça, mais c'est comme un western, tu reprends.
C'est la référence, en fait, c'est le truc que disait Singleton, c'est-à-dire que lui, en fait, ce qui l'a intéressé, c'est qu'il se disait, pour lui, en fait, le personnage de Mark Wahlberg, c'est un personnage de voyou de l'Ouest,
ouais,
en fait.
C'est un outlaw, quoi, c'est une histoire d'outlaw.
Hors la loi.
Complètement, avec le désert glacial à la fin, enfin, tout ce que tu veux. Mais là, on est dans les clous, on est dans les clous de tout le truc, mais c'est par rapport à l'objectif de ce qu'est le film, c'est malin d'avoir utilisé plusieurs codes qu'on attendait, c'est malin d'avoir glissé en filigrane une tentative d'émotion des personnages par rapport au fait qu'ils soient des salauds, mais comme toujours, tu sais, c'est comme Matt Darling Clementine avec la prostituée, on est toujours dans le même truc, là c'est la mère, elle a fait un truc bien, donc ça justifie tout. Voilà, ça a pas plus de prétention que ça, et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça fonctionne, tout simplement en fait, tout simplement.
Un autre truc aussi
qui est insupportable dans un autre film c'est cette morale qui est insupportable.
Oui, bien sûr. Bah là aussi, il y a un autre truc, c'est que je pense qu'il y a un lâcher prise. C'est-à-dire que en gros, d'après ce que j'ai compris, enfin c'est ce qui revendique, c'est qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, ce qui fait que beaucoup des dialogues en fait de Mark Wahlberg. De Tyrese et tout ça, en fait, bon, même si Tyrese, c'est quand même pas le plus grand acteur.
Non, mais il se débrouille pas mal dans celui-là.
Le problème de ce gars, c'est que c'est un espèce de beau mec, tu vois, si tu veux, qui en profite un peu
fait,
trop.
C'est le goût, mais je veux dire, le rôle qu'il joue dans Quatre Frères, c'est fondamentalement exactement la même chose qu'il joue dans les Fast and Furious depuis, hein.
C'est pas un bon exemple.
Non, mais je dis pas que c'est un bon exemple, mais je veux dire, le mec, il est jamais sorti de ce truc-là, en fait.
Non, bien sûr, de toute façon, je pense qu'il est très limité. Oui, mais le truc, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un rapport entre, par exemple, entre Mark Wahlberg et Ethan Lund, en fait, d'improvisation des dialogues, de punchline, de choses comme ça qui font qu'en fait, si tu veux, les mecs ont réussi à laisser rentrer la vie. En fait, dans ce récit-là, et mine de rien, en fait, c'est ce qui fait qu'il fonctionne. C'est-à-dire que comme toi, t'es attaché au personnage, tu dis, bon, ils sont cool, ils sont sympas, tu vois. Voilà, malgré
Reste, tu t'en fous. En fait, le film aurait été complètement raté s'il en était resté à son intrigue, à ses codes, avec des personnages pris au premier degré. Ça aurait été sans doute très con. Et le fait qu'il va jusqu'au bout, moi, je trouve ça. On n'a pas parlé de cette scène qui, quand même, paraît-il, ils ont mis une plombe à la tournée, la scène dans les chiottes. La scène où Mark Wahlberg est quand même en train de chier sur les toilettes avec le jeune qui est en train de prendre sa douche à poil et Tyrese qui vient de dire j'ai une irritation sur ma teub et qu'est-ce que je peux faire. Bon, tu peux pas faire plus bovin que cette scène à l'époque, mais c'est cette espèce de quotidienneté à la con qui arrive dans les rapports humains qui fait qu'il prend du temps de rester avec ses mecs, leurs meufs qui sont tous ensemble dans la même baraque à dire des conneries, qui fait que t'as de la vie, comme tu dis, qui sort de
la logique familiale qui est liée au titre, hein.
Ouais, voilà,
enfin,
c'est ça.
Je veux dire quatre frères, et tu comprends que c'est quatre frères, même si en fait c'est expliqué dès le début quand ils se retrouvent avec les médecins. C'est pas possible que tu sois mon oncle parce que t'es blanc et moi je suis noir, tu vois. Et bah si, en fait,
et puis c'est jamais appuyé derrière, c'est jamais appuyé. C'est ça qui fonctionne bien, c'est que pour un mec qui a été sur la question raciale depuis le début de sa carrière et qui en a fait du militantisme, si tu veux, d'en arriver à un film où elle ne se pose pas. Et moi, je trouve ça, je trouvais ça plutôt cool de la part de Singleton. C'est-à-dire que c'est pris un acquis, quoi. On est quatre frères, et puis voilà, il y a peut-être une raison qui fait qu'on n'a pas la même couleur de peau, mais on s'en fout. Et ce qui est bien joué au départ, c'est que ils sont vraiment frères. C'est-à-dire, ils se kiffent, et ça se voit, et ça se ressent. Et donc, du coup, t'embarques avec eux pendant le reste du truc, quoi.
Et c'est surtout, c'est un film qui hésite pas. T'as aussi ce truc, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est un peu la problématique. Alors, tu vois, pour le coup, et là, je parle cinématographiquement des films actuels, en fait, si tu veux, c'est cette démarche, en fait, de pas. Enfin, le film s'appelle comme ça, donc en fait, tu pourrais te dire normalement, il commence en fait avec les quatre frères, il devrait se finir avec les quatre frères, tu vois. Et non, en fait, ils n'hésitent pas à déblayer un personnage, ouais, en fait, pour des raisons, on va dire, au moins narratives.
Oui,
quoi,
oui,
en fait.
Même si c'est la base.
Oui, mais c'est la base, mais aujourd'hui, c'est plus la base.
Oui,
c'est ça
clair.
Le truc, c'est non, qu'en c'est fait, tu vois, quand j'ai revu la scène, je me suis dit, putain, mais ah oui, il le déblaye, en fait. Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Et en fait, en gros, toute cette idée-là, c'est que je me suis dit, ah ouais, bah donc en fait, encore à l'époque, on avait encore à peu près le sentiment de voilà, aujourd'hui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de questions. Ouais, mais vous voulez vraiment qu'on se débarrasse de personnages-là et tout? Est-ce que les spectateurs ne vont pas se plaindre qu'on s'est débarrassé? Est-ce que sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas nous dire que,
voilà,
tu vois?
Tu résumes bien tout le problème.
Mais non, mais voilà,
en fait,
et c'est, non, mais
c'est l'essentialisation
surtout,
en fait, problème, quoi.
C'est surtout, en fait, trop demander aux spectateurs, si tu veux, trop se poser la question de ce que le spectateur veut vraiment voir, si tu veux, au lieu, en fait, de dérouler ton récit, quoi. Même si, encore une fois, comme tu le dis, il y a rien de nouveau en fait dans le fait de tuer un des quatre frères, si tu veux. C'est juste que c'est un ressort narratif,
voilà,
assez classique. Voilà,
tu as quatre frères qui butent un des personnages importants du film auquel tu t'étais attaché, qui plus est celui qui est présenté comme celui ayant probablement le plus souffert dans sa jeunesse, parce que
ouais,
c'est sous
le tout, hein, tu vois.
Non, mais je veux dire, c'est quand même sous-entendu qu'il ait vécu des abus sexuels, des choses comme ça. Donc t'as ce film là qui n'hésite pas, pour des ressorts dramatiques et tout ça, et dire, et puis parce que bon, voilà, c'est la vie, c'est un bam, et puis tu as Avengers, où on va te créer un personnage ex nihilo auquel tu ne t'attaches pas, dont t'en as rien à foutre, que tu vas buter pour justifier que tes super héros imbutables continuent le récit. Donc c'est exactement ça. C'est comment on racontait une histoire avant, comment on la raconte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se crée tellement d'entraves, de contraintes, de choses comme ça, qui fait qu'en fait, tu ne peux plus dérouler des passages nécessaires à produire de l'émotion. Tu ne peux plus. Donc ça devient une mécanique creuse, non émotionnelle, où donc tu ne te raccroches que fondamentalement à la politisation des persos dans les valeurs qu'ils sont censés défendre, même s'ils ne les reprennent pas. Enfin, c'est tout ce qui va pas aujourd'hui.
Le truc, en tout cas, c'est que c'est surtout, encore une fois, c'est étonnant de la part de Singleton qu'il ait pu réussir quelque chose comme ça. Et je parle encore une fois en termes de simplicité, parce que, par exemple, en fait, il y a plein d'éléments de ce film qui sont des redites de ce qu'il a fait dans Shaft, par exemple. En fait, par exemple, évidemment, il y a l'utilisation du soundtrack qui est un peu similaire. Enfin, il va chercher quand même énormément de classiques de la Motown et tout là et tout pour, en fait.
Super soundtrack, d'ailleurs.
Jusqu'à un point, en fait, si tu veux, t'as envie de dire, putain, parce que ça, c'est pareil, c'est une autre façon de raconter les films. C'est-à-dire, aujourd'hui, t'as plus de films, en fait, avec des soundtracks, à part quand c'est Tarantino ou comme ça. Je veux dire, et encore, même Tarantino, il le fait différemment aujourd'hui par rapport à l'époque.
Alors que t'as deux films en un véritablement dans celui-là.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Et le truc, si tu veux, c'est qu'il y a cette façon de raconter qui n'existe plus vraiment, en fait, où on va surmusicaliser le truc, avec, au milieu, un super score, même si c'est beaucoup plus léger, de David Arnold, en fait, qui avait, moi, je trouve, fait un travail absolument incroyable dans le chef de Singleton. Mm-hmm. Sa musique, en fait, elle est vraiment formidable, quoi. Je vous invite vraiment à l'écouter.
Il a tellement peu laissé de souvenirs, ce film, que.
Bah, le film est naze, hein, complètement. Hein, le Shaft avec Samuel Jackson, hein, début des années 2000, hein, c'est vraiment pas terrible. Il y avait, comment il s'appelle,
j'en ai aucun souvenir.
En fait, il y a Christian Bale en méchant. Qui reprenait un peu son rôle à l'American Psycho. Il faisait un bon méchant de Blaxploitation parce qu'il était ouvertement raciste et machin, donc ça, c'était plutôt sympa, tu vois, de le voir vraiment jouer le gros con, quoi, le gros connard et tout. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'était dans le ton, on va dire, de voilà. Et t'avais la zic, mais après le reste, effectivement, malgré Samuel Jackson, que j'adore, malgré tout ça, c'est vrai que c'est un film.
C'est la fin de la carrière aussi, Quatre Frères.
C'est son avant-dernier film. Il a fait beaucoup de télé. Hein.
Tu vois les films qu'il a fait avant, je pense que déjà toute la politisation du début de carrière était déjà en train de se noyer dans la survie du metteur en scène à Hollywood. Donc, t'arrives.
Oui, survie, enfin, tu vois, je veux dire, c'est un gros film, hein, Quatre Frères, mine de rien, on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, parce que, encore une fois, ces films-là, ils débarqueraient sur Netflix. Le truc, c'est qu'à l'époque, c'était un gros projet pour la Paramount. C'est un film qui a été un succès, mine de rien aussi. C'est un film pendant des années, on a parlé de suite. C'est-à-dire, Mark Wahlberg aime beaucoup le film, par exemple.
Ouais.
En fait, c'est-à-dire, il avait signé avant même qu'il
y ait
un
réel sur le film. C'est lui qui a poussé vraiment.
Voilà, c'est lui qui a poussé le truc à ce que ça existe, parce qu'il aime vraiment, il était vraiment fan du scénar. Bon, j'imagine qu'il a vu des trucs dedans que, voilà.
Ouais, il a vu son perso, qui est quand même super cool, qui est quand même rigolo,
quoi. Mais après, il l'a déjà joué.
Mais il l'avait déjà joué.
C'est quand même dans son
ADN, ça, c'est sûr.
Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait d'habitude. Enfin, je veux dire,
qui fait bien, d'ailleurs.
Son vécu, on va dire, de petite frappe, si tu veux, avant qu'il devienne une star de cinéma, il l'a souvent utilisé quand même dans son travail, quoi. Donc là, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, même si, encore une fois, l'emploi est très bien fait et c'est très sympathique. Et je préfère le voir là-dedans, par exemple, si on parle de cinéma d'action, que...
Transformers
Non, mais Transformers, c'est encore à
part. Bam
non, non,
mais... Hein, j'ai séché, là.
Non, non, mais parce que même Transformers 4 ou 5, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Mais moi, je pensais plus à son truc où il joue le troufion, là. Le sang et des larmes, là.
Ils sont fous.
Moi, tu vois, enfin, chez Peter
Berg... Moi, il fait marrer quand il fait le bourrin naïf, quoi. Moi, c'est là où il est parfait, Mark Wahlberg.
Ouais, mais Patriot, je sais plus, Patriot...
Je m'en rappelle plus.
Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, Patriot Day ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, quoi. Les trucs avec Peter Berg, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Même si, j'aime bien le truc Deepwater. C'est pas ouf comme film, Deepwater, mais j'aime bien le côté prolo.
Que Peter Berg, d'ailleurs, vit une sorte de petit culte en marge là de gens qui voient un grand auteur sur quelques films qu'il a fait. Ça me dépasse un peu, mais il fait pas des films désagréables, là, c'est pas la question. Il y a des trucs marrants, hein.
Ça dépend,
hein. Mais c'est pas génial, quoi, non plus. Faut pas abuser, quoi.
Mais en tout cas, il a beaucoup tourné avec Mark Wahlberg.
Ouais, ouais.
Mais c'était vraiment pour faire un renvoi par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a ce truc où il y a une volonté de faire une suite. Bon, apparemment, c'est encore, Tyrese. Alors, mais Tyrese, je sais pas si t'as déjà vu Tyrese sur les réseaux sociaux, mais entre les phrases toutes faites, en fait, si tu veux,
mais Tyrese, les crises de larmes sur Fast and Furious et tout ça sont long grillés définitivement. Si j'arrive de doigt sa survie qu'à Fast and Furious et il fera rien d'autre derrière, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Le mec, il tape sur The Rock et Statham parce qu'ils vont faire un spin-off et après, il se pose des questions de pourquoi on l'embauche pas ailleurs. Donc, forcément.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait je prends donc avec des pincettes ce qu'il peut dire si tu veux sur internet, mais il a parlé en 2020 du fait qu'il existait un script pour la suite de 4 frères et que en gros son idée c'est enfin que en gros il était question peut-être que le film se fasse, quoi. Donc alors bon,
je vois pas qui c'est un film oublié malgré tout.
C'est ça le truc, c'est un peu l'intérêt de Stéroïdes aussi. Hein, on se posait la question au début de savoir de pourquoi est-ce qu'on parle de ces films-là. Mais c'est vrai que moi,
C'est un film oublié.
Voilà, c'est un film un petit peu oublié pour, je pense pas forcément non plus pour des raisons. Enfin, ça me semble cohérent que ça soit un petit peu oublié aussi parce que c'est pas non plus un grand film.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que c'est un film vraiment divertissant. Et bah c'est notre intérêt à nous de quand on aime bien un film comme ça de le remettre un petit peu en avant.
Ouais.
Quoi, voilà.
Ouais, c'est clair.
Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a moi je reste quand même que ma scène préférée, parce que tu parlais de mise en scène ou des trucs comme ça, ma scène préférée c'est quand même le démasticage de la baraque.
Qui est sympa, mais
par contre dans l'idée plus que dans l'exécution, je trouve, par moment. Parce que, en fait, en gros, même si tu vois, ils ont créé justement la baraque en studio pour pouvoir, vraiment la shooter comme ils veulent, bah, t'as l'impression qu'il manque des plans, des fois.
c'est vrai.
C'est parce qu'en fait, après, par exemple, les trucs de spatialisation pure,
Bien sûr. Mais c'est pas son grand truc. Mais,
non.
Pour ça que je préfère, moi ce que je kiffe, c'est la scène finale. Mais je la kiffe. Je la kiffe vraiment, la scène finale.
Et l'épilogue.
L'épilogue, je le kiffe vraiment.
Parce que dans l'épilogue, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ce moment où ils sont interviewés par les flics et en fait, ils sont tous là en train de dire « Ah ouais, j'ai baisé ta mère » et tout.
Ouais, ouais,
en fait,
c'est ce truc où, en fait, t'as pas besoin de dialogue, tout est bouclé, comme on savait le faire à l'époque, visuellement, tout simplement. J'aime bien le fait, tu vois, ils reconstruisent la baraque, il y a les gamins derrière, ce mec qui a buté tout le monde, qui est un bourrin, qui va faire la morale au gosse, genre, faites gaffe quand même, qui se retourne, qui voit sa mère, qui lui dit, c'est super ce que t'as fait, grosso modo, et finit sur la grosse banane de Mark Wahlberg. Moi, c'est un état d'esprit, ça, qui me fait kiffer, qui me faisait kiffer. Et qui m'a fait kiffer en le revoyant, tu vois. Je me suis dit, ça, on pourrait plus finir un truc comme ça, et ça, j'aime bien.
Ouais, peut-être que... Oui.
Oui, peut-être, mais ce serait pas amené...
Des séries télé,
on pourrait faire... Non, mais aujourd'hui, il serait tout à fait capable d'avoir cette idée-là, de la plaquer à la fin, et de rien faire pour l'amener. C'est-à-dire que pour que cette scène-là fonctionne dans l'état d'esprit, il faut une forme d'immoralité au préalable que aujourd'hui on se refuse.
Et encore une immoralité en fait qui est toute cinématographique en vrai.
Complètement, mais qui est une idée de... Ouais, qui est... c'est pas l'immoralité, tu vois, c'est pas faire un truc sur Jeffrey Dahmer là où je sais pas.
Non, mais c'est pas Devil's Rejects.
C'est une espèce de transgression d'état d'esprit quoi. C'est surtout ça. C'est une façon aussi de dire et on peut rire de tout quoi en fait. On peut se marrer de tout. Et bon voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à dire.
Voilà, c'est tout ce que t'avais à dire sur le film. T'es sûr? Tu poses le micro, tu le reprends plus?
Voilà, je pose le micro. Salut tout le monde.
Voilà. Merci Yannick. Voilà, je lui fais poser le micro pour être sûr que, comment dire, qu'il va pas le revendre parce qu'à chaque fois il nous fait des fins à rallonge. Les gars, bon, j'ai pas grand chose à dire et puis en fait il lâche le. Il reprend le. T'as plus rien à dire, mais tu le dis sans le micro quoi. Donc merci Yannick, voilà. Merci Alain, merci à la technique. Est-ce qu'on parle un petit peu de notre campagne sur le MOOC en ce moment?
Tout à fait, le MOOC de Capture Mac, donc pour les 10 ans de Capture. Donc,
c'est la voix d'Alain Mercier que vous entendez au micro.
2012-2022, notre décennie de cinéma. Vous pouvez retrouver ça sur Kiss Kiss Bang Bang.
Voilà.
Voilà.
Il y a des interviews, il y a des nouveaux articles, il y a tout ça. C'est 300 pages hein, quand même, hein, mine de rien. Donc c'est quand même un gros bébé là, qui est au moment où on enregistre. Hein, parce que là, quand vous verrez l'épisode, ça sera
déjà lancé.
Ça sera lancé, ça sera bouclé. Mais au moment où on enregistre, en fait, si tu veux, je suis encore en plein dedans. Donc si vous voyez ma tronche de mec fatigué. C'est parce qu'en fait, j'ai pas encore tout à fait terminé le sommaire. Mais voilà, en tout cas, normalement, bah, ça sera disponible aussi plus tard en kiosque. Enfin, pas en kiosque, mais en librairie.
En librairie à partir de
janvier. À partir du mois de janvier. Donc, l'idée de la précommande, c'est effectivement de le recevoir avant.
Pour l'avoir sous le sapin.
Voilà. Éventuellement sous le sapin, normalement, si tout va bien. Voilà. Donc voilà. C'est sûr qu'il se manque. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description, tous ces trucs-là.
Tout à fait.
Voilà. Donc, merci à vous, puis vous nous soutenez. Merci, en fait, à ceux qui typent aussi. Merci à ceux qui, nous permettent d'exister. Et puis, on se dit à la prochaine avec un bon film. Et bravo Yannick, il a pas ouvert sa gueule. Voilà. Ça marche. Allez, merci.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.